C'est un courrier d'ailleurs qui est une lettre ouverte, donc il est évident qu'elle ne s'adresse pas uniquement au personnel, hein, plus que le corps enseignant, parce qu'il y a les cadres aussi, il y a un ensemble de personnes dans ce réseau qui ne sont pas forcément enseignantes. J'ai fait cette lettre ouverte parce que depuis 3 ans maintenant que j'approfondis et que je fais ce travail de contrôle parlementaire et de propositions et de recommandations, j'ai parfois l'impression de ne pas être bien compris, parfois même d'être compris à l'envers. Après m'être beaucoup battu pour que le ministre, le gouvernement mettent dès le mois de juillet des subventions et pas uniquement des prêts pour résister à la crise du Covid dans le monde. Je suis maintenant accusé d'avoir voté contre, alors c'est complètement faux, j'ai simplement voulu le protéger. Donc voilà, il y a une ambiance, il y a énormément de passion autour de ce réseau qui est absolument magnifique. Et effectivement, les positions que j'avance sont parfois caricaturées. J'ai rarement le temps d'aller au bout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi, des gens très très avec qui je suis en relation fraternelle, hein, pas toujours complètement d'accord, mais fraternelle, qui m'ont dit, mais est-ce que tu pourrais aussi me dire comment tu vois ça et comment tu vas quelles sont tes grandes idées? Voilà, alors il y a eu un travail absolument extraordinaire qui a été fait par ma collègue Samantha Cazebonne. En plus de mes rapports budgétaires, elle a fait un rapport gouvernemental de propositions il y a 2 ans maintenant, avec des propositions alors qui étaient très techniques, puisque Samantha a été proviseur dans ce réseau, donc elle était extrêmement
L'Espagne, si je ne me trompe pas.
extrêmement précise, extrêmement technique. Elle a fait un travail absolument remarquable. Et j'ai voulu, alors qui est aussi, bon, pour les non-spécialistes, qui est parfois un peu ardu à lire, hein, c'est 157 propositions, c'est 400 pages. Voilà, moi j'ai voulu faire un travail peut-être une vision d'ensemble, une vision à 5 ans, à 10 ans, pour prouver que ce qu'on dit, ce qu'on avance, même sans plonger dans les détails techniques, que présente Samantha et qui prouve que ça marche, mais ce n'est pas une vision irréaliste, ce n'est pas une vision dogmatique, ce n'est pas une vision partisane, c'est quelque chose qui est réaliste et qui, à mon avis, est le vrai avenir du réseau et le vrai avenir de l'opérateur.
Alors, avant d'aller un peu dans le fond de vos propositions, vous parlez du fait que vous avez été caricaturé. Ça a été fait dans quel sens? Est-ce que c'était que vous avez été vu, comme certains de vos collègues d'ailleurs, comme un partisan d'une ultra-privatisation du réseau, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose?
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. J'ai été vu comme quelqu'un qui veut dénaturer le réseau, etc. Parce que ce réseau est peu connu. Voilà. Y a d'abord, on se trompe de terme, hein. Par exemple, il n'y a pas d'opposition dans l'État français, il n'y a pas d'opposition entre services publics et redevances. Il y a des tas de services publics qui sont payés en France. Et donc, voilà, et ben ça fait partie de ces services publics qui sont payés. Donc, il y a une partie service public, mais ce n'est pas une honte qu'un service public, dans certains cas, soit financé par ses usagers. C'est ce qu'on appelle une redevance. Donc là, on utilise le terme décollage. Voilà, donc le réseau aujourd'hui est en très très petite minorité un réseau public. Hein, il n'y a que 70 lycées qui sont des lycées gérés directement par l'agence, par l'opérateur. Et donc, je ne fais que décrire des choses que certains voudraient passer un peu sous le tapis.